Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Bonjour, nous avons un grand jour aujourd'hui, nous avons un invité de marque que je vais vous présenter à l'instant, qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2027. Candidat d'ailleurs après trois candidatures anciennes, pas très longtemps, 2012, 2017, 2022, il se présente donc, c'est Monsieur Nicolas Dupont-Aignan qui se présente pour la quatrième fois à l'élection présidentielle, tout comme d'ailleurs Monsieur Mélenchon. C'est aussi la quatrième fois pour Monsieur Mélenchon. Bon, très bien. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan est bien connu de nos auditeurs, il vient souvent ici. Moi, en 10 ans, je l'ai eu 3 fois à ce micro. Hein, si vous vous souvenez, mais sur les 10 ans, hein, étalé sur les 10 ans, bien sûr. Voilà. Et je le présente brièvement. Il est, entre autres choses, Sciences Po, ENA, etc., ENARC donc, homme politique gaulliste et souverainiste, ça va ensemble, passé par le RPR, le RPF, l'UMP, créateur surtout de son propre parti, parce que les autres dérivaient un petit peu, et il a fallu redresser un peu la barre, donc avoir un parti nouveau pour ça, et ça a été Debout la République, qui est devenu aujourd'hui Debout la France. Debout la France, donc. Debout la France, il a été longtemps, pendant 22 ans, maire d'Hyères, a été écarté à un moment pour en 2017, c'était la période d'arrivée.
Non, c'était le cumul des mandats.
C'était le cumul des mandats. Ah ben oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais cru que c'était à cause de l'arrivée des macronistes un peu plus haut là. Et bon. D'ailleurs, bon, ah oui, très bien. Ben vous faites bien de le préciser. Et en 2017, donc, parce qu'il avait essayé après l'élection européenne.
Non, pas du tout, j'étais député et on ne pouvait plus cumuler la députation et la mairie.
Bon, en tout cas, il est revenu cette année réélu triomphalement à la mairie de Hyères, hein, dans l'Essonne. Et voilà, et puis il faut dire que il a été réélu triomphalement parce que il avait laissé un souvenir vraiment extraordinaire aux gens de Hyères. Il avait redressé la ville d'une manière extraordinaire alors qu'il l'avait prise à un moment où au fond il y avait même pas de candidat sérieux pour la mairie parce que la mairie était dans un tel état, enfin la commune, pardon, était dans un tel état financier qu'il fallait tout redresser. Il a tout redressé, et vite.
Vous allez me faire rougir, mais bon.
Oui, mais attendez, moi je suis là un peu, d'une part pour vous critiquer peut-être, mais aussi pour vous mettre en valeur. Et ça, il faut mettre ce genre de choses en valeur chez vous. Voilà. Alors, comme énarque, il était de la promotion liberté, égalité, fraternité. Ça tombe bien. Pour lui. Il a dû participer au vote pour ce titre-là, parce qu'il y a un vote.
Oui.
Bon, vous avez dû être fortement partisan, voire initiateur. C'est ça?
Oui, voilà. Tout à fait.
C'est ce que je soupçonnais. Vous voyez, bon, très soupçonneux.
Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de liberté, plus beaucoup d'égalité, plus beaucoup de fraternité dans notre pays.
Vous voulez rétablir ça. On y vient, vous inquiétez pas tout de suite. Alors, il a été aussi, il faut l'ajouter, sa conseiller en cabinet de préfet, puis de plusieurs de deux ministres au moins, Bayrou et Barnier, c'est bien ça?
Oui, mais ça, c'était pas le plus agréable.
Bon, d'accord, mais enfin, c'est vous avez été conseiller, c'est important parce qu'on a beaucoup d'influence quand on est un conseiller propre d'un ministre.
Non.
On peut lui faire un petit peu ce que l'on veut,
non? Non. Je suis vite parti.
Toujours est-il, voilà.
Vite parti.
Et il faut ajouter une chose, c'est que longtemps, vous avez été très proche, cher Nicolas Dupont-Aignan, longtemps très proche de Philippe Séguin. Ça, ça dit quelque chose à beaucoup de gens encore.
Oui, ça j'en suis très fier pour le coup. Ouais,
très fier. Vous étiez peu éloigné de Philippe de Villiers et de certains autres, etc. En gros, moi je vous mets aujourd'hui entre Lancelot du Lac et Bayard. C'est pas mal trouvé, Lancelot du Lac, j'ai trouvé, moi. Bon, enfin bref, peu importe. Vous êtes en tout cas politiquement maintenant dans la position de 1799, où Bonaparte attendait et s'apprêtait à faire son coup d'État, mais vous ne visez pas un coup d'État,
non,
pour être consul et pour redresser le pays. Pour redresser le pays. Il l'a fait, et Dieu sait comment, vite, etc. Malheureusement, beaucoup plus tard, ça s'est terminé en rendant la France plus petite qu'elle ne l'était au moment où il l'avait prise. Mais enfin, tout de même, bon, 1799. Ensuite, il y a 1944 et 1958, période de besoin urgent de redressement de la France. Dans les deux cas, il y avait De Gaulle. Il n'y a plus de De Gaulle maintenant, mais, voilà. Alors, voilà, nous en sommes là. En tout cas, vous êtes fier gaulliste. Vous êtes souverainiste, sans désemparer, toujours, parce qu'il y a des gens qui ont changé. Il y a des gens qui, aujourd'hui, des candidats à la présidentielle, qui prétendent que, ma foi, ils vont presque faire comme De Gaulle. Enfin, tout le monde, enfin, beaucoup de gens rient en entendant ça. Avec vous, on ne rit pas, parce que ça a toujours été ça chez vous. Ça a toujours été ça. Bien. Alors, et je vais pour ça illustrer mon propos en lisant simplement, à moins que vous ne vouliez le lire vous-même, quelques paragraphes seulement de la conclusion, du début de la conclusion. Je le fais ou vous le faites? Alors j'essaye de le faire avec le ton. La conclusion de son livre, son livre bien sûr, il est là, bon, il me l'a dédicacé d'ailleurs il y a quelques temps, je l'ai aussitôt lu et lu passionnément. Nicolas Dupont-Aignan, donc 2027, la liberté ou la mort. 2027, la liberté ou la mort. Ah, c'est un enjeu considérable. Alors en tout cas, dans sa conclusion, il dit « La France n'est pas, n'a jamais été, un pays comme un autre. Tout au long de son histoire tumultueuse, elle a marqué les esprits, elle a élevé l'âme, elle s'est imposée comme la conscience du monde. » Les seules couleurs de son drapeau tricolore ont porté sur tous les océans un message universel. Liberté, égalité et la fraternité. Votre promotion de l'ENA, hein, comme je le disais tout à l'heure. Bien. Sa langue a résonné sur toutes les scènes. On y vient bientôt. Ses savoir-faire ont été copiés partout. Faute de l'avoir compris, ses dirigeants ont voulu, par idéologie ou intérêt, la normaliser de force comme on brise les mains d'un virtuose qui ne puisse plus pianoter. Bon. Ils ont, au moins pour un pianiste, ils ont avec cynisme piétiné sa démocratie, bafoué un référendum, manipulé les opinions. Ils ont détruit sa souveraineté, la transférant par morceaux à une Union européenne bureaucratique et corrompue qui a défiguré l'idéal originel de réconciliation entre les peuples. En détruisant la France, ils ont cru bâtir l'Europe sans comprendre qu'ils allaient perdre l'une et l'autre. Ils ont ainsi plongé le continent dans une fuite en avant suicidaire, la faisant sortir de l'histoire. Il reviendra dans un petit instant à ça. Le peuple français est malheureux. Il a perdu son exception et donc sa dignité, sa raison de vivre, son moral, son énergie. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Comme un individu en dépression, il n'a plus la volonté de se battre. Il se laisse aller, il ronchonne et se soumet toujours et encore à ses bourreaux. Et pourtant, comme j'ai voulu le démontrer par ce livre, que d'atouts notre peuple recèle, que de force il pourrait déployer si tout simplement on lui déliait les mains, lui redonnait confiance, en le respectant, le consultant, le responsabilisant. La France peut se relever si on l'entraîne à redevenir indépendante et grande. Oui, La braise est sous la cendre et le feu peut repartir pour plusieurs siècles. Je vais terminer bientôt. Témoin de ces 30 années de descente aux enfers, je sais que les Français n'ont pas voulu... plus de 30 années, j'y reviendrai dans un instant. C'est 50 en fait. Hein. Je sais que les Français n'ont pas voulu ce destin médiocre qui leur a été imposé. J'ai voulu décrire au fil des pages cet enchaînement de bons sentiments, d'intérêts, etc. Je termine la partie que je voulais lire. Il y a urgence en 2027 à se lever pour, d'un coup, par surprise, desserrer le nœud coulant et ôter la corde qu'ils nous ont mise autour du cou. Il est tard, mais jamais trop tard. Toute l'histoire des hommes et des nations nous enseigne qu'un sursaut est toujours possible. J'ai voulu en dessiner les étapes. Le sursaut, oui. Le sursaut, il en parle, j'y viendrai dans un instant, il en parle aussi à propos de la langue française, je compléterai mon introduction. Vous n'aviez rien à ajouter à la présentation? Non?
Non, je vous écoute.
Bien, ben oui, je suis dans le ton, en tout cas, j'espère. Bon, la langue française, il faut parler de ça. D'abord, il faut parler d'une date que je vais souligner dans un instant, c'est la date de 1974, la mort de Pompidou. C'est aussi la date de début de beaucoup de choses désagréables. Je ne les signe pas toutes, mais c'est très curieux cette date. Mais en tout cas, elle est primordiale pour nous, pour notre sujet général d'aujourd'hui, et pour en particulier la langue française. Pourquoi ? Giscard d'Estaing arrive, est élu confortablement quand même. Les gens croyaient sans doute que c'était un vrai successeur de Gaulle. Pas tout à fait ça. Donc, Giscard d'Estaing, il fait sa conférence de presse, sa première conférence de presse, moitié en anglais. Ça veut dire que c'était un signal donné, ça n'a pas été perçu comme tel. Les gens n'ont pas bien compris ça, ils étaient encore dans l'ambiance, croyaient que l'ambiance gaulo-pompidolienne allait durer. C'était une belle période, une splendide période, par certains côtés, même s'il y a eu la guerre d'Algérie, selon certains, etc., difficile, certes. Mais... on croyait encore rester là-dedans, dans cette période-là. Alors, on n'a pas trop sursauté lorsqu'il a fait sa conférence de presse à moitié en anglais. Pourtant, c'était un signal qu'on a bien compris ensuite comme le signal d'un début de ce qui est maintenant la fin d'un demi-siècle. Ça fait un demi-siècle que l'on nous a voulu nous changer. Changer la France. Vous le disiez tout à l'heure dans ce que j'ai lu. C'est à ça que vous faisiez allusion. On a voulu endormir, engourdir, mettre en léthargie les Français pour leur faire oublier ce qu'ils étaient. Et notamment, alors il y a eu beaucoup. C'est un demi-siècle où on a comment dirais-je. Je vais terminer bientôt, hein, mais cette présentation, je pense, est nécessaire pour annoncer tout le reste que vous allez traiter. C'est le début donc du règne d'un demi-siècle donc de matérialisme mondialiste, c'est-à-dire on parle maintenant économie et finance beaucoup plus que civilisation et même politique intérieure ou extérieure. On parle économie et finance, on est dans la ligne américaine en quelque sorte. C'est le début d'une revassalisation de la France. De Gaulle nous en avait libérés. Un début de revassalisation de la France, et nous sommes encore en plein dedans. Revassalisation à l'Empire, bien sûr, américain essentiellement, naturellement. Bon. Et aussi, début d'un affaissement, et là j'y viens, de notre langue française, y compris même avec Mitterrand. Pourtant ultra cultivé, beaucoup plus que ses successeurs. Hein. Donc, un affaiblissement et un affaissement de la langue française dans son importance, alors qu'elle avait été pendant 5 siècles, Cinq siècles, depuis François Ier, en clair. À la tête de la politique intérieure de la France et de la politique extérieure de la France. La politique intérieure, parce que c'était l'ordonnance de Villers-Cotterêts, bien sûr, il y avait eu d'ailleurs Louis XII avant, mais enfin, peu importe, c'est surtout François Ier et l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui comptent pour mettre le français comme tâche principale de la politique intérieure. C'était l'unification, enfin, ou le conforter, disons, l'unité de la France. Les Bretons se battaient pour le roi, ou les autres, les Occitans, les Flamands, etc., du Nord, se battaient pour le roi dans leur langue, en quelque sorte. Il n'y a pas besoin nécessairement du français pour ça, mais quand même, l'unité de la France devait être consolidée. La France n'est pas un pays comme l'Allemagne où on parle l'allemand partout, où on parlait déjà depuis longtemps l'allemand partout, ou même l'Italie où on parle l'italien partout, n'est-ce pas ? Bon, il fallait donc conforter, c'était un problème essentiel. Voilà, je n'en dis pas plus là-dessus. Maintenant, politique extérieure aussi, et à partir de François Ier aussi, qu'est-ce qu'il fait ? Il conclut un traité qui s'appelait les capitulations. Personne ne capitulait, ni la Turquie, ni la France, avec l'Empire ottoman, la sublime porte, avec Soliman le Magnifique, un traité qui s'appelle les capitulations. Et que dit ce traité, entre autres, et c'est pour ça que la France aussi le voulait, d'abord, c'était pour donner l'exclusivité de la protection des chrétiens d'Orient à la France, l'exclusivité à la France. Ça a été un facteur politique énorme de politique étrangère, de soutien aux chrétiens d'Orient. L'Empire ottoman, ça allait jusqu'aux frontières du Maroc et ça a englobé l'Arabie, enfin un tas de pays dans le coin. Vous voyez un petit peu, je ne vous fais pas de détails. Bon, c'était énorme. Et il se trouvait que la France, à ce moment-là déjà, était une grande pourvoyeuse de missionnaires à l'étranger. Les missionnaires qui, justement, allaient à l'étranger, y compris en Turquie, bien sûr, y compris dans l'Empire ottoman, au Liban, enfin, vous imaginez, c'est ça qui a commencé avec Saint-Louis d'abord, avant, mais enfin, très peu. Mais après, surtout, ça a été à partir de ça que le Liban est devenu partiellement francophone, et une partie de la Syrie à l'époque aussi. Enfin, bref, j'en ai presque terminé, vous voyez. Alors, Tout ça s'est terminé dans ce demi-siècle-là, l'affaissement de la France, de la langue française et de la France un peu en même temps, s'est terminé par une opération de démantèlement du français à partir de 2017, mais surtout à partir de 2020, à partir du Brexit, ensuite les JO, ensuite à Villers-Cotterêts même, il a fait Villers-Cotterêts très bien, mais c'était pour le en même temps, pour avoir quelque chose à dire quand on le critique de parler tout le temps français ailleurs dans le monde, et puis même parfois dans les discours en France. Bon, très bien. Donc, ce Macron-là, il fallait le remettre à sa place. Bien, alors... Mais il a fait un démantèlement presque complet. Donc, vous dans l'un de vos livres là ou dans celui-là aussi, vous avez employé l'image de la grenouille. Mm-hmm. Quand on veut chauffer la grenouille, la tuer par la température en quelque sorte, on ne la met pas dans l'eau bouillante tout de suite parce qu'elle saute. Donc, il faut la mettre progressivement et chauffer doucement jusqu'à etc. C'est ce qu'on a fait pendant ce demi-siècle à la France et à sa langue. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Est-ce que vous pouvez lire ou compléter, si vous voulez, ce que vous avez écrit ? Parce que ce que vous avez écrit sur la langue française, c'est absolument déterminant. C'est un vrai engagement. C'est l'engagement dont nous rêvions. Vous êtes le seul à avoir donné cette réponse que nous attendions de tout, parce que j'ai écrit à tous les candidats à la présidentielle. Vous êtes le seul à avoir fait une réponse de ce calibre-là, de cet engagement-là, la priorité, la vraie priorité pour la France, c'est de réintroniser sa langue. Nous vous demandions cela, merci de l'avoir fait, puis vous détaillez. Voilà. Et ensuite, nous parlerons, si vous le voulez bien, un petit peu du reste de votre livre, parce que le français n'est pas tout dans ce que vous faites et dans ce que vous représentez, c'en est loin. Vous dites des choses absolument remarquables et vous les dites fort bien dans ce livre sur ce que vous allez faire. Et c'est cette partie que je voudrais vous voir faire ensuite, c'est-à-dire la troisième partie qui s'appelle, après la démocratie et l'indépendance, s'appelle l'espérance. Alors quoi, comment vous imaginez être déjà élu et vous dites voilà ce que je fais à tel endroit, à tel moment, je fais ceci, cela, cela, cela pour aboutir au redressement, au sursaut, véritable sursaut de la France à partir de 2027. Voilà, je vous écoute.
Alors écoutez, je vais surtout répondre à vos questions, mais c'est vrai que dans la fin du livre, j'aborde la question de l'identité. Et j'explique que depuis, alors moi ce que j'ai connu, 30 ans, parce que j'ai commencé qu'il y a 30 ans, la vie politique, et c'est déjà beaucoup, mais j'explique que la question de la langue est centrale. Parce que quand on détruit une langue par tous les bouts, et quand on n'applique pas la loi tout bon, quand on n'apprend plus bien le français à l'école,
c'est nous qui l'avions.
C'est vous qui l'avez été à son origine.
C'est nous qui avons mis la langue de la République et le français à l'article 2 de la Constitution avec nos amis parlementaires en 1992.
Et vous avez fait un travail extraordinaire. Et en vérité, ils n'appliquent pas la loi tout bon. Il suffit de se promener dans les rues et de voir les enseignes qui sont de plus en plus en anglais. C'est une dépossession. Et en fait, ce que j'explique dans le livre, c'est que la dépossession n'est pas seulement culturelle, n'est pas seulement économique, n'est pas seulement migratoire, n'est pas seulement... Elle est linguistique. Elle est linguistique. Et à partir du moment où un peuple ne pense plus dans sa langue, ou ne la connaît plus, ou plus bien, dans les entreprises, souvenez-vous combien nous avions combattu ensemble sur l'affaire des brevets.
Ah oui.
Jacques Chirac avait bloqué le protocole de Londres et ensuite Nicolas Sarkozy, en arrivant, avait lâché avec Valérie Pécresse.
Bah voyons, c'est Nicolas Sarkozy.
Valérie Pécresse qui est bien connue pour tout faire en anglais, notamment la région Île-de-France. À partir du moment où on dépossède un pays, un peuple de sa langue, on ne la transmet plus, immédiatement, vous voyez bien que c'est le début d'une colonisation. Et en fait, ce que j'explique dans ce livre 2027, La liberté ou la mort, c'est comme la grenouille, et je prends l'image de la grenouille, on a colonisé, ils ont colonisé la France, ils ont accepté qu'elle soit colonisée. Quand je dis colonisée, je ne parle pas en termes migratoires. La colonisation, elle est intellectuelle, elle est linguistique, elle est économique, elle est politique. Je crois que la question de la langue est fondamentale. Voilà pourquoi dans les solutions que je présente dans mon livre, il y a cette grande loi d'orientation que je veux mettre en œuvre pour la promotion de la langue française, qui passe par quantité de mesures, et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais d'abord la première, c'est d'appliquer la loi. Alors vous savez que les tribunaux ne veulent pas appliquer la loi tout bon, les procureurs ne font pas appliquer la loi tout bon. C'est quand même incroyable, il y a une loi, elle a été votée par la représentation nationale, elle n'est pas votée. Ensuite, c'est le rétablissement de l'enseignement en français dans les universités. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nombreuses universités, il y a des modules d'études qui sont uniquement en anglais, et que des Français...
Depuis la loi Fioraso.
Voilà, et que des Français, et des jeunes étudiants français ne peuvent plus étudier dans leur langue. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Vous savez que dans les entreprises, on s'aperçoit que quantité de dialogues d'entreprises françaises sont obligatoirement en anglais, ce qui appauvrit considérablement l'émulation intellectuelle. Donc c'est une très mauvaise... idée en termes de compétitivité.
Et le rapport avec les collègues ou les subordonnés.
Mais bien évidemment, et il y a un appauvrissement de la réflexion qui se fait. Et là aussi, il faut rétablir l'obligation dans les entreprises de communiquer en français. C'est fondamental, l'université, l'entreprise, la rue, ce que j'appelle la rue, c'est-à-dire l'application de la loi Toubon, les médias, et puis, bien évidemment, au cœur de tout, l'exemple vient d'en haut. C'est ahurissant de se dire qu'aujourd'hui, le président de la République parle en anglais en France, parle en anglais à l'étranger, ne défend plus la langue. Et notre langue n'est pas simplement la propriété des Français. Notre langue est universelle et avoir un président de la République qui s'exprime en anglais à l'étranger, c'est un coup de poignard dans le dos de nos amis francophones. Comment demander à nos amis francophones quantité de pays, j'ai plus le nombre de, du nombre de pays dans l'organisation de la francophonie, vous le connaissez sans doute, j'ai plus en mémoire.
Il y en a maintenant 90, c'est un excès parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose à voir là-dedans.
La langue française est parlée dans le monde entier et à partir du moment où les autorités
396 millions, d'après le dernier rapport présenté par l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, sur le nombre de francophones, enfin de vrais francophones, par langue acquise ou par langue maternelle, etc., peu importe, mais qui sont capables de parler, de s'exprimer en français. Près de 400 millions.
C'est une chance inouïe.
C'est au quatrième rang maintenant, alors que nous étions au septième encore il y a quelques années.
C'est une chance inouïe. Et là, comment voulez-vous que les pays qui apprennent le français à leurs étudiants, à leurs élèves, à leurs écoliers, continue si le président de la République française vient les voir et parle en anglais. C'est incroyable ce qui se passe. De même, est-ce que vous savez, enfin vous le savez mieux que moi, monsieur l'ambassadeur, que à Bercy, la Commission européenne écrit au ministre des Finances, au ministre du Budget en anglais, et que la France répond en anglais. La première instruction qu'il faut donner, c'est de ne plus répondre à aucune missive en anglais et de répondre toujours en français. Donc, si vous voulez, là, c'est un abandon incroyable. Et j'ai été longtemps à la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, tout bord confondu. Nous protestions régulièrement. Et nous étions face à des ministres qui n'en avaient rien à faire. Nous avions même, sans vouloir être méchant, à un moment, une ministre de la francophonie qui ne savait même pas parler français correctement. Donc, c'est quand même extravagant ce qui se passe. Et c'est là où vous vous dites que ce n'est pas l'influence de l'extérieur qui nous détruit, c'est l'incapacité de nos dirigeants à nous défendre et même à exister en français. C'est impressionnant, il faut que les auditeurs se rendent compte à quel point...
C'est la volonté d'une partie de notre classe politique à nous diminuer, à nous éliminer et à faire de nous des vassaux à nouveau.
Tout à fait, ils sont vassalisés, comme d'ailleurs je réfléchissais, comme il y avait dans les colonies, toujours une classe de collaborateurs qui faisaient semblant d'être des gouvernements fantoches et que les puissances coloniales adoraient, parce que ça donnait l'illusion d'un gouvernement réel, et ça évitait de faire le sale boulot. Et c'est terrible de voir cette espèce de soumission de nos élites françaises aux fonctionnaires, journalistes, qui ont une sorte de malin plaisir à accepter la disparition de notre langue. Et je suis convaincu que c'est par le sommet aussi que viendra la capacité à changer ça, donc il faut une grande loi d'orientation. C'est pas anecdotique, c'est pas perdu.
Non, c'est
pas du tout perdu.
Et c'est pas perdu non plus.
Il y a une richesse de création de langue française dans la chanson française, exceptionnelle. Il y a aussi beaucoup de personnes de l'immigration, il faut le reconnaître, qui, c'est pas ma musique, mais qui ont un rap en français et qui refusent cette domination anglo-saxonne. Donc, ce n'est pas un combat d'arrière-garde. C'est ça que je veux dire.
Loin de là, nous prétendons être d'avant-garde.
C'est un combat fondamental. Et je conclue mon livre là-dessus. Bien sûr, dans le livre, il n'y a pas que la francophonie. Mais c'est un livre, en fait, pour réveiller les Français et sortir de cet état d'esprit de coloniser. C'est quand même terrible de voir que notre peuple, notre pays... Après, vous avez raison, 50 ans, moi j'ai connu que les 30 dernières années comme acteur politique, mais 50 ans de culpabilisation d'existence. Et c'est ce qui rend les Français malheureux, parce que les Français, au fond, veulent vivre. Regardez le canon français, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces banquets qui sont dans toute la France. C'est un merveilleux moment et c'est extraordinaire. Ça prouve que le peuple vit sous la cendre, il y a la braise. Et c'est ça qu'il faut réveiller, il faut souffler sur la braise. C'est ça, en tout cas, moi, ma responsabilité et la responsabilité de tous les personnalités, de tous les Français qui aiment notre pays. Ce n'est pas fichu, loin de là. Et ce livre que j'ai écrit, ce n'est pas un livre pessimiste. C'est un livre dur, je crois lucide, j'espère que... Et il marche très bien, il y a beaucoup de ventes.
Ça ne m'étonne pas.
Et je suis heureux parce que j'avais très peur.
Ça ne m'étonne pas.
J'avais très peur que... Bah, on a toujours peur quand on sort un livre qui ne soit pas lu. Pour être clair, on se donne tellement de mal. Et puis, là, on me disait que l'éditeur en a réédité 2000... Il y a des listes d'attente. Donc, moi, j'aimerais vraiment que les Français le lisent, ce livre, parce que j'ai mis tout mon être dedans, tous mes combats, et surtout, j'avance des solutions pour qu'on reprenne espoir. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de se lamenter de ce qui se passe, il faut l'analyser. C'est pour ça que je l'analyse. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Si on comprend pas ce qui s'est passé, on peut pas rebondir. Mais une fois qu'on a compris ce qui s'est passé, il faut rebondir. Et là, il faut trouver un chemin escarpé. Et le chemin sera très escarpé. Et c'est pour ça que j'ai pris dans la troisième partie qui s'appelle Espérance, j'ai fait un scénario de politique fiction, non pas par mégalomanie, rassurez-vous, mais parce que je me suis dit qu'il fallait, pour convaincre les Français qu'une voie existait, il fallait l'écrire, cette voie. L'écrire comme si ça arrivait. Donc c'est un scénario de politique fiction qui montre qu'on peut redresser le pays. Mais que ça ne sera pas facile. Je n'ai pas fait un scénario de politique fiction, trop optimiste, parce que ce serait enfantin. Et je n'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu faire un scénario de politique fiction difficile, où on voit qu'un nouveau président souverainiste, une nouvelle assemblée souverainiste, pour redresser un pays qui a été tordu pendant 50 ans, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence collective, beaucoup de mobilisation, et y aller progressivement.
Tout à fait, mais bien parti. Bien parti. Le gaullisme complet, vous l'avez, et il est nécessaire, avec sa culture, avec la langue, évidemment. J'ai l'impression qu'au second tour, parce que vous avez de quoi accéder au second tour, c'est pas une flatterie comme ça que je fais en avant, parce que vous êtes capable de traiter de tout l'essentiel, alors que nos élites actuelles ont été baignées pendant ces 50 ans que nous avons décrits ensemble tout à l'heure, dans le déni, en fait, dans le déni de ce que l'on est, etc. Et le peuple, ça n'a pas pris sur le peuple, qui heureusement gronde et veut un changement. Le peuple exige en ce moment de plus en plus le sursaut en 2027, y compris ceux qui ne disent pas, ceux qui ne votent pas, qui ne votent plus, parce qu'on parle pas de l'essentiel, y compris la langue. Voilà. Eh bien, tous ces gens-là, ils vont se réveiller, là.
Et c'est
ils vont se réveiller dans cette année.
J'espère.
Qui nous sépare encore
de l'élection. J'espère parce que vous pointez du doigt la question.
Laissez-moi finir simplement là. C'est que ça peut, au deuxième tour, parce que vous pouvez être au premier, bien placé au premier, pouvez accéder au second tour, un dialogue entre la liberté et la mort, comme vous le dites, c'est-à-dire le dialogue entre, en fait, le sursaut ou la mort, c'est certain, entre le gaullisme complet, comprenant tout ce que nous savons, et puis l'anti-gaullisme, je dirais presque l'anti-France en face, presque l'anti-France. Et pourtant, M. Mélenchon, puisqu'on l'évoque, en 2017, il faisait avec nos documents, à sa demande, nous lui avions fourni des documents pour cela, il a publié une charte de la francophonie. Ça veut dire que dans tout le domaine, il n'y a plus de Gaulle aujourd'hui, mais pour avoir une sorte de consensus et donner le signal que nous cherchons à donner, il y a le terrain de la langue, il est consensuel. Y compris, Mélenchon ne peut pas dire quelque chose contre. Comprenez ? Voilà.
Alors, la vraie question que vous posez, c'est comment, et ça c'est le point d'interrogation.
Alors, votre espérance.
Non, mais le point d'interrogation que j'ai, Et pourquoi j'ai écrit ce livre ? C'est pour réveiller ces millions de Français, 13 millions à l'élection présidentielle, plus de 20 millions aux dernières municipales, qui s'abstiennent. Et je ne parle, voilà, pas, et je parle pas des 4 à 5 millions qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Alors, je regardais les chiffres récemment, on est entre 3 et 6 millions de Français, on n'arrive pas à savoir, qui ne sont plus inscrits sur les listes électorales. Et donc, tout l'enjeu, là, c'est une affaire très grave, tout l'enjeu, si l'on veut redresser le pays, c'est de convaincre ces Français qui ont abandonné qu'il faut reprendre le chemin des urnes. Et on ne pourra les convaincre de reprendre le chemin des urnes que si on leur propose un projet d'une nature différente. Et si vous voulez, ce que je vois, je ne sais pas si vous avez remarqué, monsieur l'ambassadeur, qu'à nouveau, à l'approche de la présidentielle, à un an de la présidentielle, le système médiatique s'appuie sur un système frelaté, j'emploie le mot frelaté, de sondage, qui ne sont fondés que sur les mêmes votants. Et donc, je voyais ce matin un nouveau sondage.
Édouard Philippe.
Voilà, Édouard Philippe devient, ça y est, ouais. On nous ressortait.
On le bâtit comme le candidat idéal.
Ce matin, Édouard Philippe et Gabriel Attal, comme les candidats idéaux. C'est impressionnant de voir à quel point un système complètement décalé par rapport au fond de la population française veut à nouveau imposer aux Français un récit malhonnête. Et c'est là où je veux me mettre en travers de cela. Parce que ils vont tout faire pour dire, voyez, Dupont-Aignan, il est à 2%, à 3%, à 4%. Mais en même temps, dans le Figaro de ce matin, je vois un sondage, un autre sondage, sur le potentiel électoral. Et là, ça devient intéressant. Il y a 17% des Français qui souhaitent que je sois candidat. 17%, c'est pas mal. Je suis au-dessus de M. Zemmour, je suis au-dessus de M. Mélenchon, je suis au-dessus de quantité
d'autres.
C'est
bien, ça, je savais
c'est
pas.
Pas si mal.
Ah,
et oui. 39% qui pensent que je le serai. Ça veut dire que...
Moi, c'est ce que je pense depuis longtemps, mais je savais
oui,
pas
mais qu'on m'explique.
Autant,
17% mais... qui le souhaitent. Et dans le même moment, on me sort des sondages d'intention de vote à 2%, 1%, 3%.
Bah, voyons.
Comme si on voulait systématiquement casser...
L'élan.
Des candidatures différentes, mais au-delà de la mienne, des candidatures différentes. Et c'est ça qui est absolument pervers dans le jeu, et qui... Ça m'a impressionné longtemps. Ça m'a culpabilisé longtemps, oui, monsieur l'ambassadeur.
Je sais bien.
Et même les troupes, parce que comment voulez-vous suivre un homme quand on vous sort des sondages malhonnêtes ? L'avantage de ce sondage du Figaro, c'est que ça montre que, en vérité, il y a une quinzaine de personnalités, une vingtaine, qui sont souhaitées par les Français. Bien évidemment, je ne vais pas dire, je vais être très honnête au micro, Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Monsieur Philippe, évidemment, on parle d'eux toute la journée, sont à 30% de souhait. Je ne suis qu'à 17. Mais 17, c'est quand même pas mal. Et c'est autre chose que le 1% comme sort, ou 2%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on est à un point de désespérance de nos concitoyens qui peut permettre de changer le visage de la France en 2027. Parce que quand nos concitoyens étaient dupes du système, on ne pouvait pas franchir cette barrière des sondages, des médias. Aujourd'hui, l'information est sur des radios comme les vôtres, l'information est sur les réseaux sociaux. Les Français ont compris que la grand-messe du journal télévisé était mensongère. Aujourd'hui, les Français voient bien qu'ils sont étranglés. Et donc moi, je me bats pour que cette immense masse silencieuse qui fait semblant d'avoir abandonné, mais qui au fond de son cœur n'a pas abandonné, eh bien se réveille.
Mais
on ne la réveillera. Et c'est pour ça que j'ai fait cet effort intellectuel. On ne la réveillera pas par de la communication bas de gamme, par de la mauvaise réclame. On la réveillera si on voit qu'il y a un fond. Et c'est l'objet de ce livre, de montrer qu'il y a du fond, qu'il y a des propositions, qu'il y a un raisonnement. Alors, on me dit parfois, oui, mais tu rêves, les gens ne vont jamais lire, ne vont pas. Mais moi, je crois au bon sens populaire et je crois que si, en tout cas, ils ressentiront que j'ai un projet construit. Et c'est pourquoi j'ai mis ces trois étapes. D'abord, on rétablit la démocratie. Ensuite, on rétablit l'indépendance, c'est-à-dire la liberté de son destin. Et ensuite, on fait un effort collectif qui nous porte à espérer. Et tout ça est très structuré parce que je crois que c'est la seule solution pour qu'il y ait un chemin de sortie de crise et de convaincre une majorité de Français.
Tout à fait. Parenthèse, il y a un Bobino là maintenant, qui reprend. On reprend tout de suite après, naturellement.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
On reprend. Je viens de vous montrer un papier dans l'intervalle reçu d'un auditeur, etc. Il termine par « Merci pour votre détermination patriote ».
Oui, mais il faut dire ce qu'il écrit.
Vous voulez qu'on...
Bah oui, parce qu'il dit alors, en gros... Audi. Allez-y.
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour ça que je ne voulais pas le répéter tout
non,
de suite.
Non, mais il dit quand même...
Bonjour, monsieur Dupont-Aignan, votre détermination patriote est admirable. Cependant, je crains que vous péchiez par optimisme en prenant comme base de vos actions la notion que les Français partagent la même haute vision de la grandeur de la France que vous. Ils sont devenus trop individualistes, mais vous l'avez dit déjà ça, alors mais on vous le redit
non,
là.
Mais
il termine, en conséquence, vouloir donner un coup rôle... de premier ordre au référendum me paraît une erreur.
Mais c'est une vraie question que pose monsieur. C'est pour ça que quand j'ai lu le message que vous m'avez montré, je pense qu'il pose une vraie question. Je me la suis posée aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que le référendum pour court-circuiter l'oligarchie médiatique, judiciaire, politicienne qui étouffe les Français. Et bien sûr qu'on peut perdre un référendum, bien sûr qu'il y a un risque. Mais, regardez, sur l'immigration, le système ne veut pas de référendum.
Ah bah, c'est
parce que si on fait un référendum sur la suppression du droit du sol, sur le regroupement familial, sur les allocations, sur le rétablissement des frontières, mais on va le gagner à 90%. Autre point, sur le code pénal, si on fait un référendum sur le durcissement des peines, sur la construction des places de prison, mais on le gagnera à 90%. Donc, je crois, quel que soit le risque, que la seule solution, c'est de s'appuyer sur la majorité des Français pour prendre les bastilles qui nous étouffent. Parce qu'en fait, si on réfléchit, et je le décris dans le bouquin, il y a une minorité agissante qui a pris le pouvoir en France. Cette minorité agissante, vous citiez, c'était intéressant, je crois que c'est moi ou c'est vous, je sais plus, vous citiez la cérémonie des Jeux Olympiques.
Oui, bah oui, bien sûr.
Qui a fait honte.
Honte.
Honte à la France, mais dans le monde entier.
Oui.
Cette cérémonie des Jeux Olympiques.
C'était entièrement en anglais. Tout ce qui était écrit, vu
tout
par un milliard de téléspectateurs, était
non,
en anglais, le résultat des courses, tout.
C'était une cérémonie qui a sali la France. Mais il n'y a pas une majorité de Français derrière ça, c'est une minorité agissante. Donc moi je crois
on va les réveiller.
Qu'en l'état de la situation, la seule solution, c'est de s'appuyer sur le peuple français. Alors évidemment, il y a toujours un risque, mais le risque que note l'auditeur est moindre que le risque de ne rien faire, voilà.
Un autre vous dit, je trouve que Nicolas rassemble toutes les valeurs qui nous manquent depuis le déclin de la France. Pourrez-vous, cher Nicolas, tenir tête à l'état profond? Monsieur Nogier, quelque chose comme ça, dit tout Nogier. Non. Je vous le donne.
Tenir tête à l'état profond, pour pouvoir tenir tête à l'état profond, il faut déjà pouvoir tenir tête au système qui va tout faire pour m'empêcher d'être candidat. Donc, d'où l'importance des parrainages. Les 500 parrainages, tout nous aider financièrement aussi, parce que je ne vous cache pas que c'est aussi un de mes handicaps. Comme je suis honnête et que j'ai toujours refusé l'argent sale et qu'on ne doit pas être nombreux dans la vie politique, je peux vous assurer...
Y compris à l'extrême droite.
Je peux vous assurer qu'il y a besoin d'aide et vous pouvez aller sur mon site Debout la France. Pour tous ceux qui veulent faire un don, je suis pas doué moi pour réclamer de l'argent, je le fais rarement, mais il y a un moment où si on n'a pas les moyens de la campagne, eh bien on n'arrivera pas à faire campagne. Donc je lance un appel à tous ceux qui souhaitent me soutenir dans ma candidature présidentielle, parce que faut aller sur le site internet Debout la France, et même si chacun faisait 5 euros, j'ai calculé que 17% des Français qui souhaitent ma candidature, c'est 7 millions de personnes. Si chacun d'entre eux me donnait qu'un euro, j'aurai le budget des autres. Et vous savez combien j'ai eu de budget en 2022 ? 800 000 euros. Combien a eu Madame Pécresse ? 11 millions pas. D'euros.
11 millions.
Combien a eu Madame Hidalgo, qui a fait moins de voix que moi ? 3 millions. Combien a eu Monsieur Jadot, écologiste ? Comment, expliquez-moi, parce que ça c'est un mystère pour moi, comment Monsieur Jadot, écologiste, les Verts en France ont moins d'adhérents que moi à Debout la France. Comment il a pu récolter 5 millions d'euros ? Qui lui a donné 5 millions d'euros ? Vous comprenez ? Et moi, je vous le parle franchement, j'ai eu du mal à récolter 800 000 euros. Et pourtant, on a beaucoup de petits dons. On reçoit des enveloppes avec un petit billet de 5 euros, avec une épingle. On a beaucoup de Français qui nous donnent quelques centimes. Mais moi, je lance un appel parce qu'il faut que les souverainistes s'unissent. Il y a trop de divisions chez les souverainistes. Il faut qu'on ait les moyens de faire campagne. Et il faut qu'au-delà des idées, mais la base, c'est les idées. Donc la base, c'était le livre. Et après le livre, il faut que, voilà, on mette en œuvre une vraie campagne politique avec les moyens que les autres ont. Parce que moi, je suis impressionné par leur capacité à lever des fonds financiers énormes, alors que c'est extrêmement dur, surtout au moment où les Français ont d'énormes difficultés financières, n'arrivent pas à faire le plein de leur voiture. Vous voyez la difficulté. Mais c'est un enjeu aussi. C'est un enjeu. Alors, pour lutter contre l'État profond, eh bien, il faut qu'on se mobilise, qu'on se rassemble. Il faut que chacun fasse un geste. Je le demande.
Et se rassembler aussi entre les droites pour l'élection elle-même, évidemment. Tout ça, c'est une grosse discussion. On peut être sceptique sur la constitution d'une union des droites, que ce soit derrière l'un ou derrière l'autre. Ça, à mon avis, seule l'évolution des sondages pourra déterminer qui.
Je ne crois même pas, parce que le problème, c'est que les sondages sont totalement manipulés. Et donc, je crois que c'est plutôt autour des idées qu'il va falloir se rassembler. Je pense
et
que
vous les avez, vous
je
avez
pense
les
que
bonnes.
L'union des quand on appelle l'union des droites, si vous voulez, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un émiettement de candidats. Faut pas négliger la question. Mais l'émiettement de candidats, c'est surtout ceux qui pensent tous pareil. Parce que quand vous regardez Monsieur Lisnard, même Madame Knafo ou Éric Zemmour, Bruno Retailleau, pour ne prendre que. Je ne parle pas d'Edouard Philippe. Sur la question européenne, ne franchissent pas le stade que je franchis. C'est-à-dire qu'ils considèrent encore qu'il faut rester dans cette organisation qui nous tue à petit feu. Et je serai le seul candidat, et c'est pour ça que ma candidature a un sens politique, je serai le seul candidat qui propose un chemin pour se libérer de l'Union européenne. Parce que si on ne se libère pas de l'Union européenne, et qu'on ne reconstruit pas une Europe légère des souverainetés nationales, des nations libres, on ne pourra pas reprendre notre liberté et résoudre nos problèmes. C'est un point fondamental. Et ça, j'aimerais qu'il soit sur la table de l'élection présidentielle.
Mais je crois qu'en insistant, bien sûr, ce qui sera le cas dans les mois qui viennent, vous avez des chances, vous avez beaucoup de chances, parce que vous êtes, vous proposez, vous indiquez le chemin vers ce que les gens réellement au fond, c'est-à-dire la somme des gens du peuple qui souhaitent que la France se rétablisse, vous dites ce qu'ils attendent.
Mais ce qu'ils ont compris, parce qu'en fait, ce qui est impressionnant, hier, j'étais dans une brocante dans ma ville, et j'ai une dame qui est venue me voir, et qui m'a dit, vous savez, moi j'ai compris depuis longtemps que quand les autres décident à notre place, quand les autres pays, elle m'a dit une phrase très forte, avec des mots simples, populaires. Elle m'a dit, moi j'ai compris que ce sont les autres pays qui décident à la place de la France.
C'est les meilleurs mots.
Elle a tout compris.
Bien sûr.
Et le système politique fait semblant de lui faire croire
que c'est eux qui décident, que c'est encore
le président de la République. Tout le monde a compris. Et par exemple, aujourd'hui, tous les agriculteurs de France ont compris que c'était von der Leyen la patronne, et que c'était plus la classe politique française. Regardez cette histoire du Mercosur. Je me permets d'insister un instant.
Mais c'est typique.
C'est impressionnant. La France a été mise en minorité. Ça veut dire qu'à 27 pays, dans cette organisation-là, nous sommes minoritaires. Et que les autres pays se sont ligués pour détruire l'agriculture française.
Parce que nos gouvernements y ont renoncé
aux
droits de veto.
Et bien sûr. Et ce qui est encore pire, Savez-vous la décision qui a été prise, parce que personne ne le sait, la décision qui a été prise à Bruxelles, tout récemment.
L'énumération ?
Non, sur les quotas de viande à importer d'Amérique du Sud. Le Mercosur ouvre, sans droit de douane, 300 000 tonnes de viande, de poulet, de bœuf, en provenance de l'Amérique du Sud. D'accord ? Eh bien, un comité technique, technocratique à Bruxelles, avec l'aval de la France, a accepté que ce soit les autorités brésiliennes qui choisissent le fournisseur de ces quotas. C'est-à-dire que ce ne sont même pas les importateurs français qui vont choisir entre de la viande argentine, de la viande de l'Uruguay, de la viande, tel producteur, telle qualité. C'est Bruxelles qui accepte de déléguer ces 300 000 tonnes de viande à un géant de la viande brésilienne, qui donc va avoir un monopole d'importation sur le territoire européen. Et il n'y a qu'une députée européenne, pour le coup républicaine, Madame Imar, qui a écrit un excellent article là-dessus. Et ce qui est surprenant, c'est que ce roi de la viande, une entreprise qui pèse 85 milliards d'euros, qui s'appelle JBS, ce roi de la viande, a été reçu à l'Élysée en novembre 2025, avant même l'approbation du Mercosur. Ça veut dire que, scandale du scandale,
corruption partout.
Le président de la République protestait contre le Mercosur, mais recevait le roi de la viande brésilienne à l'Élysée. Alors, je ne sais pas s'il y a corruption. En tout cas, il y a corruption morale. Ça veut dire qu'il y a double langage.
Toujours double langage, c'est le en même temps.
Est-ce que ce n'est pas le signe d'une colonisation totale ? C'est-à-dire que l'Union européenne, qui est censée nous protéger, ouvre la porte à des importations sans droit de douane et délègue ces importations à une entreprise multinationale qui inonde le marché mondial de produits à la qualité douteuse, qui ne respecte pas les normes européennes.
Fort douteuse, il n'y a pas
qui ne respecte pas les normes européennes. Donc, vous voyez, et face à ça, toute la classe politique française a protesté. Toutes, mais personne n'en tire les conséquences. Je serais le seul à dire, mais vous vous plaignez tous du fonctionnement de l'Union européenne et vous ne voulez pas en sortir. J'appelle ça du masochisme.
Nous sommes dans le règne de la parole simple, non exécutée.
Oui, mais ça c'est plus possible de continuer ça parce que c'est très concret. Et là ce sont tous les éleveurs français qui vont crever. Et derrière les éleveurs, il faut bien savoir ce que c'est. Ce sont nos villages de France, ce sont nos paysages, c'est l'entretien de notre territoire, c'est le tourisme. Si la France est la première destination touristique du monde, c'est pas pour voir des éoliennes horribles.
100 millions par an.
C'est pas pour voir des paysages abandonnés, c'est pas pour voir des fermes usines comme en Ukraine, sous capitaux de BlackRock. Parce que c'est ça derrière. Faut bien comprendre que les Français doivent savoir, mais ils ne le savent pas puisqu'on ne leur dit pas, que derrière ces défaites économiques, il y a la destruction de l'âme du pays, de l'âme de la France. Et moi, je dis bravo à tous ces éleveurs extraordinaires qui se battent, qui refusent d'ailleurs la vaccination ARN. Il faut le savoir aussi, puisqu'on est en train de les forcer à vacciner leurs élevages, avec des conséquences terribles. Et ça, c'est une autre débat qui est aujourd'hui, qui apparaît, et sur lequel je me renseigne. Bref, le temps passe, on me dit que le temps passe. Mais tout ça pour dire que la domination de l'Union européenne et la soumission de la France a des conséquences concrètes. C'est pas abstrait.
Certes.
On a pris l'exemple de l'agriculture, mais on pourrait en prendre 50.
Certes, mais vous le dites, tout ça, c'est bien. Vous êtes là pour ça, vous êtes là pour le dire, vous serez entendu. Je crois que c'est une opinion que j'ai depuis longtemps. Je sais que les résultats n'étaient pas ceux qu'on attendait dans les dernières fois, mais je crois que là, vous avez la parole qu'il faut dire, et vous hésitiez à un moment à dire qu'il faut sortir de l'Europe, vous le faites maintenant, c'est clair. Vous avez une position extraordinairement claire, maintenant.
Que je n'avais pas avant.
Mais oui,
peut-être
vous ne l'aviez pas avant.
Peut-être par timidité, peut-être par...
Vous négligez aussi la langue française, vous avez bien compris, vous aussi.
Oui, j'ai mis du temps.
Oui.
Comme quoi on mûrit.
Non, c'est normal. Vous avez baigné dans tous ces 50 ans d'oubli forcé de ce que nous sommes. Vous avez compris avant les autres, et vous le dites avant les autres, vous le dites contre les autres, vous allez gagner contre les autres.
Eh bien, merci. Ambassadeur Salon.
Merci, chers auditeurs. Merci à Claudia. C'était bien, Claudia. Hein. On vous a entendu. Merci.
Vous venez d'entendre le français en partage dirigé par Albert Salon, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 4 mai 2026 de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse de toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.